Bonsoir. Le parti politique En Vol plaide pour la révision de la Constitution. Une quarantaine d'articles de la loi fondamentale sont concernés par ce plaidoyer du parti de Délice Sessanga. En Vol propose par exemple la réintroduction du deuxième tour pour l'élection présidentielle, la démission du président de la République si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les 3 mois de l'expiration de son mandat et le cumul de la nationalité congolaise avec d'autres nationalités. Quelle lecture faire de ces propositions? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 12 septembre 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti politique En Vol. Monsieur Ramazani, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Jean Chilumbayi, le député national de l'UDPS. Professeur Chilumbayi, bonsoir.
Bonsoir, madame. Jean-Claude Chilumbayi, plutôt député provincial UDPS.
Merci. Et le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, bonsoir.
Bonsoir et merci de l'invitation.
Merci, vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Patrick Pilipili Mouerezi, depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Des très bonnes propositions à soutenir, mais pourvu qu'elles ne touchent pas les articles verrouillés. Merci de nous suivre à Kindu dans la province du Maniema sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Parole aux auditeurs pour participer. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le parti politique En Vol plaide pour la révision d'une quarantaine d'articles de la Constitution de la RDC. Lors d'une conférence de presse tenue hier mercredi à Kinshasa, la formation politique du député national Délice Sessanga a dévoilé sa proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale. Cette révision vise à renforcer des points forts de la Constitution et l'adapter aux défis actuels du pays, explique le parti. Reportage Billy Yvon Lutumba.
Les différentes propositions du parti En Vol sont suivies des justifications et c'est que les cadres de ce parti appellent garde-fous. C'est le cas de l'article portant sur la nationalité qu'ils illustrent avec ce qui se passe en ce moment en Afrique du Sud en considérant ceux des Congolais ayant changé de nationalité. Simon Moulamba, secrétaire général chargé des élections.
Nos compatriotes qui sont à l'extérieur, quand bien même ils ont la nationalité, s'ils sont chassés aujourd'hui, vous suivez ce qui se passe en Afrique du Sud, mais ils sont considérés comme des étrangers. Une fois arrivés au Congo, ils seront des apatrides. C'est pourquoi nous avons dit pas question.
L'article 70, ayant fait couler beaucoup d'encre de salive quant à la fin du mandat du président, nécessite d'être complété pour éviter toute ambiguïté.
Si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les 3 mois de l'expiration du mandat du président de la République en fonction, celui-ci est réputé démissionnaire et le président du Sénat exerce l'intérim pour la tenue des élections dans les conditions particulières. Cet article règle les problèmes que nous avons connus.
Parlant de l'article 72, En Vol estime qu'il doit renforcer les conditions d'éligibilité du candidat président, surtout pour ce qui est du cumul de la nationalité telle que proposée. Le parti de Délice Sessanga affirme que cette révision a pour vocation de renforcer les points forts de la Constitution et l'adaptation aux défis actuels du pays.
Merci Billy Lutumba pour tous ces détails. Rodrigue Ramazani, je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du parti politique En Vol. Votre parti plaide pour la révision de la Constitution. Une quarantaine d'articles de la loi fondamentale sont concernés par ce plaidoyer de votre parti politique. Qu'est-ce qui justifie ces propositions en ce moment?
Merci beaucoup madame pour la question. Ce qui justifie cela, c'est un constat que le parti En Vol a fait au regard d'abord de notre système électoral, mais surtout de différentes faiblesses de notre constitution. Mais au-delà de ces faiblesses, il faut reconnaître de forces qui existent et que nous considérons comme des acquis qu'il faut préserver. Et au regard de cela, nous avons dit il faudrait pour arriver à améliorer notre système électoral, parce que beaucoup, même des acteurs politiques, des membres de la société civile, ainsi que la population, sont tous unanimes, tous y sont d'accord, qu'aujourd'hui, il faudrait revenir aux deux tours des élections présidentielles.
Ça, pourquoi ?
Oui, d'abord, premièrement, parce que cela renforce la légitimité du candidat élu. Il faut le reconnaître aujourd'hui, à la différence des élections de 2006. Les deux dernières élections précédentes ont connu de sérieux problèmes de légitimité des élus. Il faut le dire avec vérité que les élections de 2011 ainsi que les élections de 2018 ont produit des présidents de la République mal élus.
Mais en 2006, on a eu aussi des contestations malgré les deux tours.
De contestations, mais néanmoins, du point de vue de résultat, on a eu des candidats qui ont été élus à plus de 50% de voix de Congolais. Madame, nous sommes plus de 80 millions de Congolais aujourd'hui. Encore que ces statistiques, il faut encore le revérifier. Plus de 80 millions de Congolais, il est tout à fait légitime que un grand nombre de Congolais puissent se reconnaître à leur président de la République. Mais la contestation électorale ne n'est pas seulement au Congo, n'est pas seulement un problème congolais. Même aux États-Unis, on a connu ce problème. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de continuer à améliorer notre système électoral, de continuer à améliorer notre société. Voilà pourquoi l'Envol estime, au regard de cela, il faut revenir au détour des élections présidentielles, enfin, de permettre d'abord la clarté en termes de résultats, et deuxièmement, renforcer la légitimité du président de la République, parce que notre proposition de la révision constitutionnelle a aussi pour objectif le renforcement de la légitimité des élus. C'est très important. Aujourd'hui, il faut revenir à ça et aussi permettre à ce que l'on puisse se retrouver autour d'un candidat au deuxième tour. Non pas parce que on aime bien le nom ou bien on aime bien la personne, mais parce qu'on aime les idées qu'il porte.
Prenons le cas. Excusez-moi, Monsieur Ramazani, lorsque on est passé de deux tours à un tour, la raison avancée, c'était éviter les coûts du deuxième tour des élections. Lorsqu'on va vous demander de revenir au deuxième tour, est-ce que ça ne va pas peser sur le gouvernement parce qu'il faudra un budget pour ça?
Oui, cela a été démontré que c'était faux. Les différentes idées avancées par la majorité de l'époque. Parce que si nous regardons les élections de 2018, certainement étaient plus coûteuses que les élections de 2006. Donc, les raisons avancées n'étaient pas fondées. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit du parti, il s'agit de l'Envol comme structure, comme institution. Nous pensons qu'il faut revenir au détour pour des raisons évidentes. Question de consolider notre démocratie, consolider aussi la légitimité de l'élu président de la République, mais surtout renforcer les acteurs politiques ou la société tout entière derrière un candidat pour ses idées qu'il porte. Voilà pourquoi nous introduisons aujourd'hui la notion d'un débat contradictoire obligatoire.
Et qu'est-ce que ça apporterait de plus, un débat contradictoire?
Je venais tout à l'heure de le dire, je vais encore le redire. C'est que le débat contradictoire apportera quelque chose de plus. Nous allons être derrière un candidat pour les idées qu'il porte. Vous savez qu'en 2006...
La campagne électorale ne suffit pas?
Écoutez, si la campagne électorale suffisait en elle-même, je prends un exemple pour faire le droit comparé. Je prends un exemple de pays de grande démocratie. Si seulement la campagne électorale en elle-même suffit, je pense pas qu'en France, on aurait connu de débats légendaires.
Est-ce qu'on est obligé de faire comme la France?
Je pense que nous ne sommes pas obligés, certes, mais nous devons prendre de bonnes idées. De l'autre côté, nous nous souvenons d'ailleurs, le monde entier reste en haleine pour suivre les idées. Aujourd'hui, nous, en tant que parti politique, nous estimons que la grandeur d'un parti politique n'est pas forcément par le nombre de élus qu'il peut donner après une élection, bien que mon parti ne se justifie pas. Mon parti aujourd'hui comptabilise 6 élus dans ses rangs. N'est pas seulement sur le plan de l'implantation. Nous ne nous justifions pas pour ça aussi, parce que nous sommes implantés à plus de 19 provinces aujourd'hui, mais surtout sur les idées qu'il met au devant de la scène. Une société doit se construire autour des idées. Vous savez que le Congo est une idée, madame. Le Congo est une idée dans quel sens? Vous savez, là où ma mère sort de Bolomba, ou mon père de Païkongila, ils sont pas censés habiter ensemble avant 1800, Et s'ils sont arrivés à rester ensemble, c'est grâce aux idées. L'idée venant de quelqu'un, le roi de Belge qui a voulu faire du Congo sa colonie. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre comme une nation. Donc, comme le Congo est une idée, nous devons mettre en avant les idées. Et l'envol est là pour mettre devant les idées. Nous continuerons à le faire.
Merci, Rodrigue Ramazani. On va revenir à vous tout à l'heure pour les autres propositions que vous faites. Avant cela, on va passer la parole au professeur Jean-Claude Tshilumbayi. Il est député provincial de l'UDPS. Professeur Jean-Claude Tshilumbayi, quelle lecture vous faites de ces propositions du parti politique en vol lorsque, par exemple, ce parti demande à ce qu'on puisse revenir aux deux tours de l'élection présidentielle?
D'abord, madame, il faut féliciter le parti politique en vol qui a pensé que c'est nécessaire de perfectionner notre système électoral et surtout le fonctionnement de nos institutions. Mais là, vous avez presque rencontré les arguments majeurs auxquels s'est dité ce débat dans le passé.
Professeur Tshilumbayi, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre radio? Parce qu'on a un retour qui n'est pas très agréable à l'antenne.
Volontiers, je l'ai fait.
Merci.
Alors, je parlais du débat dans le passé, c'est que on avait allégué principalement que ce deuxième tour posait un problème d'argent et qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes énormes qui nécessitent que la couverture financière du budget à venir se déploie suffisamment. Je suis en train de parler ici des élections locales que le gouvernement a promis d'organiser impérativement. Et bientôt là, c'est le mois d'octobre, nous avons le problème de pouvoir aux besoins d'enseignement des enseignants par rapport à la gratuité de l'enseignement. Ça signifie que déjà avec ce budget apparent de 4 milliards de dollars, nous ne sommes pas arrivés à financer solidement les élections dans le passé. On a dû les reporter de 2 ans. S'il faut envisager encore la possibilité de ce deuxième tour, je crois que là, le point financier se poserait avec tant plus d'acuité.
Mais professeur, on dit que gouverner, c'est prévoir. Donc, bien on sûr, sait qu'on a, on aura des élections dans 5 ans, donc il faudra se préparer par rapport à ça.
Au-delà de ce débat simplement technique, celui des finances, je crois qu'au plan juridique et politique, il y a une autre question qui se pose. En vol, parle de la légitimité du président de la République, mais là, je sens que la proposition ne tient pas compte d'une logique complète, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, il faut le reconnaître. On ne peut pas vouloir ne viser que la légitimité du président de la République qui serait élu par au moins une majorité absolue de la population, d'autant plus qu'on garderait le système proportionnel pour les élections législatives et que nous nous retrouverons dans cette assemblée-là avec des députés élus par 600 personnes, par 400 personnes, qui est aussi partage avec le président de la République le pouvoir de l'État. Ce qui signifierait que s'il faut rencontrer la préoccupation légitimité, il faudra que en vol aille plus loin jusqu'à envisager le système majoritaire, plus ou moins pour les législatives. Ce qui poserait un autre problème, c'est qu'il faudra là aussi 2 tours pour que les députés aient aussi une légitimité confortée ou confortable. C'est un troubéant. Je crois qu'on est en passe là d'ouvrir une boîte de Pandore. Nous l'avions souhaité, les détours, comme il l'a dit, ces arguments sont antiques, de croire que cette légitimité ne proviendrait que de détours parce qu'il y aura 50% de voix plus une. Mais dites-vous que les 50% laisseraient toujours de côté un autre 50% des populations qui ne se retrouveraient pas dans cette légitimité voulue consolider.
Mais professeur, pourtant, vous ne pensez pas que vaut mieux avoir 50% que 20% de la population?
C'est pour vous dire autant. C'est pour vous dire autant que les 50% qui laisseraient insatisfaits l'autre partie des 50% ne résolvent pas le vrai problème de représentativité. La démocratie, c'est exactement cette représentativité-là. Lorsqu'on dit que nous allons aux élections, parce que là, je suivais, il a pris l'exemple de vieilles démocraties et des démocraties les plus consolidées, toutes n'ont pas des tours des élections. Aux États-Unis, c'est un tour. Et la plupart de ces grandes démocraties, là, c'est un tour. Ils ne font pas du tout des élections. Lorsque vous prenez aujourd'hui, dans la plupart de monarchies constitutionnelles européennes, qui sont de régime suffisamment parlementaire, ces élections se font à un tour. Et ils arrivent même à gouverner au prix des coalitions, parfois contre nature. Et c'est des vieilles démocraties. Je crois que ces arguments n'ont pas fondamentalement tenu. J'imagine qu'à ce jour, le pays a des priorités. Ça, c'est un point de vue qui est à moi. Le pays a des priorités qui ne permettent pas que l'on ressasse ce débat qui va demander, j'ai dit bien, des fonds de plus, parce que il ne semble pas être disponible pour le moment.
Merci, professeur Jean-Claude Tshilumbaï, professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, votre analyse par rapport à ces propositions du parti politique en vol qui plaide pour la révision d'une quarantaine d'articles de la Constitution de la RDC, entre autres le retour aux deux tours de l'élection présidentielle.
Bon, d'abord, j'ai eu l'occasion de passer en revue la proposition de loi qui a été déposée. Mais je dois avouer que je ne l'ai pas approfondie de telle manière que si, ici, dans le cadre de ce débat, je me trompe de telle ou telle analyse, cela est dû à ce fait-là. Deuxièmement, il faut dire que, bon, l'honorable Délice Sanga nous a habitués à des grands débats, et je l'en remercie pour cela. On se souvient ici des différentes propositions de loi qu'il a eu à déposer à l'Assemblée nationale, que ce soit celle portant modalité d'application de la liberté de manifestation ou même de l'organisme qui va juridiction administrative. C'est très bien. Et donc aujourd'hui, il revient dans le cadre de son parti avec une proposition de loi de révision de la Constitution. Je l'en remercie pour le débat, ne serait-ce que pour le débat qu'il a ouvert pour ça. Mais je considère que d'abord, il y a quelques obstacles majeurs sur le plan politique et procédural. Je ne sais pas si il pourrait convaincre la majorité parlementaire actuelle, qui est composée des deux grandes familles politiques, CASH et FCC, de pouvoir aller dans le sens de la révision de la Constitution. Ça, c'est un premier obstacle d'ordre politique. Un autre obstacle d'ordre technique, c'est que au niveau de l'initiative de révision constitutionnelle, il faut que l'initiative soit portée par la moitié, au moins la moitié des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat. En l'occurrence, il faudrait que le parti de l'honorable Denis Sassanga essaie peut-être de rallier d'autres jusqu'à obtenir au moins 250 députés qui déposent formellement cette initiative. Sinon, alors, elle ne va aller nulle part. Alors, cela dit, au niveau du fond, les questions qui sont abordées sont effectivement intéressantes et elles ont déjà fait l'objet d'ailleurs de plusieurs débats. Je rappelle par exemple que ce qui concerne la question de la double nationalité, c'est un consensus qui a été dégagé entre autres Concertation nationale, dont une recommandation avait clairement stipulé qu'on puisse, assouplir le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise au profit exclusivement des Congolais d'origine. Mais si j'ai lu la proposition de loi telle qu'elle a été déposée, sur cette question, il y a plus d'obscurité que de clarté, parce que l'alinéa 3 qui a été modifié, on a supprimé carrément le principe de l'exclusivité et de l'unicité, et on reconnaît aux Congolais d'origine la possibilité d'avoir une seule nationalité supplémentaire. Bon, au-delà de la formulation même de l'alinéa, parce que ce n'est pas très très clair, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par Congolais d'origine? J'espère que le parti de l'honorable se semble assez que dans la loi actuelle, la loi de 2004 sur la nationalité, on distingue 3 ou 4 catégories de Congolais d'origine. Il y a d'abord les Congolais par appartenance, ce qui est repris à l'article 10 même de la Constitution, c'est-à-dire ceux dont les ascendants ont été un membre d'une ethnie ou d'une population qui a été trouvée dans ce pays en 1960. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les Congolais par filiation, paternel ou maternel, c'est-à-dire celui qui est issu d'un père ou d'une mère congolais ou congolaise. La troisième catégorie, et c'est curieux, c'est qu'en 2004, on a étendu la notion de nationalité congolaise d'origine à ceux qu'on appelle congolais par présomption de la loi. c'est-à-dire par exemple un enfant nouveau-né qui est trouvé sur le territoire de la RDC et qui n'a pas de parents connus, il va être reconnu directement comme Congolais d'origine. Et la loi est allée même plus loin. Ceux qui sont visiblement d'origine étrangère, qui se trouvent en République démocratique du Congo, et dont la nationalité des parents est intransmissible, du fait par exemple que cet enfant soit né au Congo, ces enfants-là sont reconnus Congolais d'origine, même si leurs parents sont officiellement étrangers. Et donc, en étendant la possibilité d'avoir une double nationalité à la catégorie générique des Congolais d'origine, la proposition de loi ne clarifie pas exactement si on vise quelle catégorie exactement parmi les 3 ou 4 que je viens de citer. Donc là, il va falloir clarifier un peu le débat. Deuxièmement, pour revenir à la question du deuxième tour pour l'élection présidentielle, je partage tout à fait toutes les analyses qui ont été faites, aussi bien par le porte-parole du parti En Vol que par le collègue professeur Tchoumaï, à savoir qu'effectivement, il y a l'avantage qu'on poursuit d'avoir une certaine légitimité plus grande pour le président de la République du fait qu'il serait élu au deuxième tour forcément par une majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus une voix au moins. Mais comme le collègue l'a dit également, il n'est pas dit que ce soit le seul système démocratique qui soit. Il a cité à bon échelle effectivement certaines nations qui sont là. Donc là, il va falloir encore non seulement convaincre dans les arguments, mais surtout emporter la décision de la majorité parlementaire actuelle. Donc l'initiative est bonne. Encore faut-il que le parti se donne des moyens politiques nécessaires pour qu'elle aboutisse.
Merci.
D'autres propositions de révision me paraissent tout à fait, on va dire, nécessaires, parce que la révision constitutionnelle qui est intervenue en janvier 2011 l'a été, à mon avis, pour certains points, totalement inconstitutionnelle. Par exemple, l'article 149 qui a écarté les parquets du pouvoir judiciaire. Alors même que la Constitution affirmait, à cette époque, elle continue même à affirmer aujourd'hui, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire devant bénéficier aussi bien aux cours et tribunaux qu'aux parquets, on a voulu, pour éroder ce principe en ce qui concerne le parquet, de les enlever carrément de l'article 149, pour que le parquet puisse continuer à dépendre du ministre de la Justice.
Merci, professeur.
Au principe même de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs.
Merci, professeur Ngonanko. On vous garde encore dans cette émission. Vous avez beaucoup de choses à nous dire par rapport au thème de ce soir. Rodrigue Ramazani, avant de reprendre aux préoccupations ou aux analyses des deux professeurs qu'on a suivis tout à l'heure, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Josué Atani Kifulu, activiste du mouvement citoyen Rien sans le peuple depuis la ville de Bukavu. La révision constitutionnelle en soi n'est pas du tout mauvaise, mais plutôt les raisons qui pourraient l'accompagner. Car dans chaque action politique, il y a toujours un agenda caché, ce qu'on appelle le plan V. Le scrutin a deux tours. Non seulement s'il accorde la deuxième chance au candidat, mais également, ça donne aux élus la légitimité. En faisant également une analyse avec des lunettes juridiques, on pense proposer que le chef de l'État soit déclaré démissionnaire par le fait de n'avoir plus organisé les élections dans un délai légal serait en quelque sorte faire un cercle vicieux, car même étant démissionnaire, il restera également en fonction afin d'éviter la politique. Et la chaise vide.
Alors, c'est aussi une de vos propositions, la démission du président de la République si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les délais des 3 mois de l'expiration de son mandat. C'est parmi les propositions que vous faites sur la Constitution.
Tout à fait, je le confirme, pour apaiser les compatriotes qui nous appellent depuis Bukavu. Je pense qu'il a lu ou encore vu la révision que nous proposons. Je crois que, avec les lunettes juridiques, comme il le dit, il va certainement constater aussi que la suppléance à la présidence de la République est organisée par la Constitution elle-même. Ici, il était question, en fait, de viter cette inconstitutionnalité qui a été consacrée par une décision qui n'a pas rencontré même l'assentiment de la population. Le président de la République doit rester jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Non, nous sommes dans une république. La république n'appartient à personne. Le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. À un certain niveau, il faut qu'il y ait, devant la nation, le président de la République engage ses responsabilités. Raison pour laquelle nous estimons, pour éviter ce qui nous est arrivé. Vous savez, lorsqu'on est dans une société, il ne suffit pas de vivre, de regarder les choses avancer. Il ne suffit pas de décrier des problèmes. Qui n'était pas d'accord? Tous nous étions pas d'accord avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Beaucoup de juristes se sont levés, même les juristes de l'actuelle majorité, le parti présidentiel et du DPS, se sont levés pour dire que cette décision était une forme de violation constitutionnelle en soi. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir à ça parce que nous avons changé de posture. Ou encore, nous qui avons décrié cela hier, nous allons encourager cela. Pas du tout. Nous disons ceci. Le président de la République est le garant de bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il n'organise pas les élections dans le délai, nous estimons qu'il doit être réputé démissionnaire. Et l'intérim au niveau de la présidence de la République se fera conformément à la Constitution, telle que cela est prévu. Ça, c'est plus pour apaiser le compatriote qui nous suit depuis.
Justement, par rapport à cet intérim, il y a Emma Muyumba qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui dit la question qu'il faut se poser aussi est celle de savoir qu'est-ce qui se passe quand le président du Sénat, qu'est-ce qui va se passer quand le président du Sénat n'arrivera pas non plus à organiser les élections dans les délais.
Oui. Nous avons réfléchi autour de cela. Nous avons réfléchi et nous avons même prévu une révision quant à ce. Nous demandons aussi au président du Sénat qui viendra faire l'intérim de prendre un engagement ferme devant la nation qu'il va organiser des élections. Au cas où il n'organise pas, il veut aussi engager sa responsabilité. Il faudrait pas aller mettre en place des blocages après blocages. Nous sommes là pour réfléchir en termes de solutions. Nous ne restons pas dans nos problèmes. Nos problèmes sont là. Mais quelles sont les solutions que nous apportons? Nos problèmes sont là. Quelles sont les initiatives que nous devons amener pour parfaire notre société? C'est vrai que nous n'aurons jamais une société parfaite. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est d'amener notre Congo vers l'avant et léguer un Congo meilleur qu'avant.
Alors, vos propositions risquent d'être butées à des obstacles, comme l'a dit le professeur Ngonako, obstacles politiques. Est-ce que vous serez en mesure de convaincre la majorité actuelle au Parlement? Obstacles techniques, il faudra réunir au moins 250 députés pour adhérer à cette vision de l'envol.
Du point de vue politique, parce que c'est politique, je crois qu'après notre bureau politique qui s'est tenu du 11 au 13 juillet au centre Nganda, nous avons déjà commencé à proposer cela. J'ai suivi plusieurs intervenants, notamment les députés de la majorité et d'autres députés de l'opposition. Quand je le suis, même eux, le professeur Ngondankoï, que je respecte beaucoup, ainsi que le professeur Tulumbay, ils ne sont pas contre l'idée de la révision constitutionnelle. Le professeur Tulumbay, qui est député provincial, il n'est pas contre ça. Même certains députés nationaux de l'IDPS, je les ai suivis, ils ne sont pas contre ça.
Mais est-ce que c'est le moment de le faire? C'est la grande question. Est-ce que c'est le moment?
Ben, quand est-ce qu'il faut le faire? Nous, si on se pose la question, est-ce qu'il faut le faire à 2 mois de l'élection présidentielle et nous allons adopter la constitution, la révision constitutionnelle à 2 heures du matin pendant que les députés sont fatigués? Nous pensons qu'il faut commencer ces débats tôt. Les grandes réformes, il faut les lancer tôt, l'amener devant devant la population, la classe politique, la société civile, en discuter pendant longtemps et trouver un consensus. Il faut le commencer maintenant. Le temps, l'opportunité c'est quand? C'est à 1 mois de l'élection présidentielle? Non. Raison pour laquelle nous sommes tombés dans ce que le professeur Ngondankoï a dit, une révision constitutionnelle inconstitutionnelle.
Alors, on va revenir sur la double nationalité. Le professeur Ngondankoï estime qu'il y a plus d'obscurité que de clarté. Vous avez suivi ces explications de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par Congolais d'origine? Il y a déjà un débat sur ça.
Oui, il y a un débat sur ça, raison pour laquelle même dans notre révision, je pense que le professeur très initié qu'il est, il a même dit qu'il a eu le temps de lire, bien que de manière un peu passagère, il a eu le temps de lire notre proposition. Et vous allez constater, même dans cette proposition, dans l'article 10 dont nous faisons allusion, nous disons qu'une loi viendra définir certaines questions sur la nationalité. C'est une proposition de la révision que nous faisons. Nous disons, tout ne peut pas être défini dans la Constitution. Certaines questions vont être définies dans la loi sur la nationalité congolaise. C'est important parce que nous allons revisiter la Constitution sur cette disposition. Donc, il y aura une loi qui viendra pour organiser la nationalité congolaise. Pour revenir aussi à ce que le professeur Tshilumbaï a dit sur la légitimité, il faudrait revoir aussi le monde des élections. Oui, le problème est là. On ne peut pas ignorer aujourd'hui qu'en France, il y a deux tours des élections présidentielles. C'est là une raison valable certainement, pour avoir le plus grand nombre d'électeurs qui font confiance à un candidat président de la République. Merci. C'est très important aujourd'hui. Nous ne pouvons pas tout balayer parce que pour des raisons personnelles ou pour des raisons politiques d'obédience.
Merci, Monsieur Ramazani. Voilà. On vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Tshilumbaï, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Ce maître Papi Kassema à Kinshasa, c'est... propositions sont, à mon avis, bonnes et c'est fait au moment opportun, c'est-à-dire au début du mandat de l'actuel chef de l'État, car le faire à mi- ou à fin mandat susciterait beaucoup d'agitation et de contestation. Mais cela sera très dangereux s'il y a des agendas cachés, tels que la modification des dispositions constitutionnelles intangibles. Un autre grand danger est celui de voir les FCC créer des stratagèmes pour que les élections ne se tiennent pas dans les délais constitutionnels afin que les présidents du Sénat puissent récupérer les claviers du pouvoir. Mais avant de proposer la révision constitutionnelle, à mon avis, il faudrait d'abord respecter la Constitution ou la faire respecter dans son contexte actuel.
Professeur Tshilumbaï.
Oui, madame, j'ai suivi là. D'abord, il faut dire que lorsque vous lisez, parce que j'ai entendu notre ami de l'Envol dire que nous sommes d'accord avec la révision constitutionnelle. Lorsque vous voyez le préambule de cette constitution-là, que nous avons adopté à l'issue de la transition de Sun City, vous constaterez que l'une des précautions prises était pour que l'on évite des révisions intempestives de la constitution. Et l'honorable Sesanga était l'un des grands ténors du MLC, et un grand intellectuel, qui avait applaudi de deux mains cette constitution à l'époque. Je crois qu'il savait qu'il y aurait probablement tous ces petits problèmes ici qui allaient intervenir. Donc, le préambule a pris ses précautions, c'est pour que nous ne soyons pas obligés chaque mandat de parler de la révision constitutionnelle. Ils nous ont donné un bel exemple ici de la France et des États-Unis. C'est d'un côté une constitution qui date de 1958, qui a connu trop peu de révisions, et de l'autre, une constitution de 300 ans, 3 siècles plus ou moins, qui n'a pas été révisée. Mais si vous allez dans le fond des propositions de révision, on vient de parler tantôt de l'intérim par le président du Sénat.
Justement. Vous voyez un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ? Le président doit démissionner s'il, dans le 3 mois, il n'arrive pas à organiser les élections.
Je vais bien. On nous ramène à ce qui se passe en province. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur un ticket. Et lorsqu'ils sont renversés par une motion, le gouverneur part, le vice-gouverneur reste faire l'intérim qui prend parfois 2 ans. Ce qui n'est pas normal, alors qu'il est élu sur le ticket qui est tombé par cette motion-là. Je crois que c'est ça des révisions qu'il fallait envisager. Mais le président du Sénat, lui, lorsque le mandat se termine et on estime que le président a terminé son mandat, il doit démissionner, il doit être remplacé cette fois-là par quelqu'un qui aussi a terminé son mandat. C'est pour dire en quelque sorte que les élections les plus importantes dans ce pays-là, c'est les élections présidentielles. Le président du Sénat, lui, est aussi issu d'une élection qui termine le mandat au même moment. Et on vous dit, bon, lui doit prendre le fauteuil du président de la République. Je crois que la précaution, elle pouvait être bonne lorsqu'on dit que lorsqu'il termine le mandat. Mais la responsabilité de la non-organisation des élections dans un État comme le nôtre ne peut pas être considérée comme du seul chef de l'État. Parce que qui donne des moyens au gouvernement pour que celui-ci organise les élections? C'est l'Assemblée, à laquelle l'honorable Sesanga, par exemple, participe depuis, je crois, 2006. Mais nous n'avons pas entendu l'honorable Sesanga soulever le problème de nature. Cette année s'est passée, nous avions prévu tel montant pour les élections. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? C'est ça des précautions qu'il faut prendre au début du mandat. Lorsqu'on adopte un budget, qu'on prenne soin de penser qu'il y aura élection dans 5 ans, quelles sont les tâches à exécuter en attendant pour que l'élection se tienne dans les délais. On ne peut pas prendre celui qui a fait mandat, qui a été élu au même moment, qui lui aussi a participé à la non-organisation des élections. On dit qu'il faut le gratifier comme si l'élection c'était l'affaire du chef de l'État. En plus, les assemblées dans cette affaire, j'estime qu'elles jouent un rôle plus important que celui du président de la République. Parce que le gouvernement dirigé par le Premier ministre est issu de l'Assemblée nationale. Et c'est ce gouvernement qui aura échoué d'organiser les élections. Mais là, vous les entendez dire, écoutez, le président du Sénat prend d'abord. S'il n'organise pas les élections, le président de l'Assemblée prend aussi. Comme si et n'ont aucune responsabilité dans la non-organisation des élections. C'est donc le chef de l'État, lui et lui seul.
Et donc vous n'êtes pas d'accord, si je vous comprends bien, professeur Tshilumbaï.
Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il est nécessaire de prendre des précautions pour que les élections se tiennent bien évidemment dans les délais et qu'on trouve des mécanismes pour responsabiliser ceux qui en ont la charge, que l'on ne dise pas que lorsque les élections ne sont pas organisées, c'est le président de la République seul qui ne les a pas organisées. D'autant plus que nous savons qu'il ne gère pas, c'est le gouvernement qui gère le budget, qui gère la territoriale, qui gère tout ce qui rentre dans l'organisation des élections.
Alors, professeur Tshilumbaï, qu'est-ce que vous pensez de cette autre proposition sur le cumul de la nationalité congolaise avec d'autres nationalités?
Le cumul dans cette proposition, il y a une petite contradiction, une autre toute petite contradiction. Moi, je voudrais bien que l'on adopte le principe de double nationalité parce que ça offre bien davantage au pays et à l'individu qui porterait cette double nationalité, parce que comme on va encore en droit comparer, des grandes nations dont auxquelles il a fait allusion ici l'ont adopté, ça n'a pas tellement préjudicié leur existence. D'ailleurs, la Cour internationale de justice avait déjà résolu le problème en cas de conflit qui opposerait les États, par exemple sur la protection d'un individu qui porterait des nationalités en termes d'affection ou d'affectivité. Mais ici, c'est lorsque il dit que le président de la République, lorsque tout le monde aura porté des nationalités, c'est lui qui doit être candidat président de la République, doit lui avoir la nationalité exclusive. Ça signifie qu'on ne peut pas, en même temps, ouvrir la possibilité que les gens possèdent la nationalité ou des nationalités et que l'on dise, bon, lorsque vous aurez possédé des nationalités, ce qui est une faveur en apparence, vous ne serez plus candidat président. Il y a une exclusion, professeur. Qui s'invite encore cette fois-là, dire à quelqu'un qui est congolais, qui participe aux charges de l'État, et lui, vous ne serez pas candidat parce que vous portez maintenant des nationalités.
Merci, professeur. Rodrigue Rabazan, il va vous répondre, mais avant cela, monsieur Ramazan, on va prendre aussi cette réaction pour le professeur Ngondankoy.
Ougane Mungwadjo et Gabriel, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Les propositions de l'envol sur la révision de quelques articles de la Constitution sont à moitié salutaires, mais nécessitent quelques réajustements. La démission du président de la République en cas de non-organisation des élections est une pause pour mettre fin au glissement, mais dans ce cas, l'intérim sera assumé par le président du Sénat qui est du FCC. Or, étant majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, y compris au gouvernement, c'est possible qu'il crée des scénarios comme nous l'avions vu dans le passé pour ne pas organiser les élections dans les délais consensuels afin qu'il se prépare convenablement pour les échéances électorales prochaines. À mon avis, je souhaiterais que M. Delice Sanga propose que l'intérim soit assumé par un homme intègre de la société civile en modifiant cet alinéa de l'article 75 de la Constitution qui donne le pouvoir au président du Sénat d'assurer l'intérim.
Professeur Ngondankoy.
Le moins qu'on puisse dire est que le débat n'est pas prêt à se terminer. Hein, parce que là, ce que le parti de l'honneur se sent à faire, c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Hein, nous entendrons toutes les propositions du monde, y compris celles qui consistent à confier à quelqu'un de la société civile qui n'est ni élu, qui n'est ni un institutionnel. Bon, voilà, c'est ça la richesse du débat démocratique. Mais sur cette question-là précise de l'obligation de démissionner pour le président de la République en cas de non-organisation des élections, moi je suis un peu étonné parce que la Constitution ne confie pas au président de la République le pouvoir d'organiser les élections, c'est la Commission électorale nationale indépendante et c'est l'article 211. Bien entendu, le président de la République veille au bon fonctionnement de toutes les institutions, mais quels sont les moyens juridiques dont il dispose pour contraindre la CENI à organiser les élections? Car l'on ne les définit pas. Si bien que s'il y a responsabilité du président de la République en cette matière-là, elle est à tout le moins indirecte, comme l'est la responsabilité du Parlement, et le collègue Tshilumbaï l'a dit, comme l'est également celle du gouvernement, puisque en fournissant des moyens financiers ou autres à la CENI pour organiser les élections, cela ne transforme pas le gouvernement en organe au pouvoir organisateur des élections. Et donc, c'est une proposition plutôt assez curieuse pour moi. Si on veut résoudre le problème tel que nous l'avons connu, c'est clair, c'est bien, mais on ne doit pas oublier que c'est un cas pathologique. La Constitution elle-même a déjà résolu ce problème, parce qu'on ne peut pas arriver au moment de la passation du pouvoir. L'article 91 est déjà, je ne sais plus exactement, 76 ou 72, ayant déjà résolu le problème, puisque les élections doivent être organisées 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Et donc, si nous avons connu ce cas pathologique, cela ne veut pas dire qu'il faut trouver encore une autre solution. Il faut obliger les présidents de la République en fonction et les autres institutions à organiser l'élection présidentielle 90 jours avant l'arrivée de la fin du mandat. Et donc, on n'aura même plus besoin de cette sanction-là. Si la Cour constitutionnelle a statué qu'elle a statué, mais bon, on la connaît, c'est un arrêt qui est critiqué, mais il ne faut pas aller de problème en problème, parce que déjà cette proposition-là, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Je vais prendre d'autres exemples.
On n'a plus beaucoup de temps, professeur. Vous allez devoir.
On propose la suppression de la motion de défiance contre les ministres. On propose l'élection des gouverneurs de province au suffrage universel direct au sein de l'Assemblée provinciale. Mais sachant que les deux équilibres fondamentaux de cette Constitution, c'est à la fois l'État régional et le régime parlementaire rationalisé que certains appellent semi-présidentiel, qui sont les deux préoccupations majeures qui ont fait l'objet du consensus. Et alors, quand on propose des révisions comme ça, je dirais à l'emporte-pièce, en prenant un élément sans les mettre tous dans le cadre de la logique constitutionnelle globale,
merci.
Je crains qu'on ne puisse détricoter le
professeur.
Consensus qui a été dégagé en 2006.
Merci, professeur Ngondankoy. Le débat est lancé. Faut-il ou pas reviser la Constitution pour l'adapter aux défis actuels de la RDC? Votre conclusion, professeur Ngondankoy, en quelques secondes.
La Constitution est toujours révisable, mais il faut faire attention aux articles à pointer, parce qu'il faut respecter la logique constitutionnelle globale qui consiste à mettre en place un État régional et un État à régime parlementaire rationalisé. Et surtout faire en sorte que les articles qui ont été déclarés intangibles ne soient pas d'une manière directe ou indirecte touchés par les propositions qui sont faites.
Merci, professeur Ngondankoy. Ramazani Rodrigue, votre conclusion.
Pour rappeler à l'honorable député provincial, le professeur Tshilumbaï, lui rappeler que lorsqu'on faisait ensemble le combat avec l'IDPS, où il est membre, le moment où les élections présidentielles n'ont pas été organisées, la charge était donnée au président de la République. Je pense que la valeur qu'on a défendue hier, nous ne pouvons pas y revenir aujourd'hui. Sinon, il faudrait qu'on commence à se poser la question, nous sommes quel genre de citoyens?
En conclusion,
pour conclure, tout ce que moi j'aimerais dire, demander d'abord au professeur Tshilumbaï de prendre le temps de lire notre proposition de loi portant révision constitutionnelle. Et autre chose, je demanderais à la population congolaise, à la société civile tout entière, à la classe politique, d'accompagner cette initiative afin que cela puisse aboutir, afin de créer un Congo plus beau qu'avant.
Merci Rodrigue Ramazani. Professeur Tshilumbaï, en 30 secondes, votre conclusion.
J'ai dit, madame l'intégrale, de la proposition, je n'interviens pas par hasard. J'ai dit tout simplement ici qu'on ne devrait pas faire de la Constitution un papier mouchoir. Moi, j'insiste sur le fait que les dispositions contenues dans le préambule de cette Constitution ont leur valeur. On voulait éviter des révisions intempestives. Ça, c'est un fait.
Merci.
Donc, dans cette révision, moi, je dis toute Constitution est révisable, ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas de l'intérêt que chaque mandat qu'on révise la Constitution et lorsque...
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.